Cuba. Et si on était passé encore plus près de l'apocalypse nucléaire qu'on le pensait? Par deux fois, le feu atomique a failli être déclenché, presque par hasard.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter, la voix est libre.
15h04, tourons la bassie, j'y suis tout de suite avec Daniel Mermet.
Faut pas être trop dur avec Christophe Barbier, faut comprendre pourquoi il est comme ça, un peu méchant, agressif. Il est pas bien dans sa peau, ce pauvre type. Personne ne l'aime. Personne ne l'aime. Même sa femme le surnomme l'Express.
Bonjour à tous. J'ai écouté ce matin Radio Classique et j'entends le présentateur dire qu'il fallait penser aux pauvres. Il nous donnait l'adresse de l'œuvre à laquelle verser nos dons. Alors quand on sait que Radio Classique appartient au fuyard fiscal Bernard Arnault, quatrième fortune du monde, ce brave homme ne manque pas d'argent, mais aussi il ne manque pas d'air. C'était Serge de Dieulefi.
Bonjour, je m'appelle Sylvie et avec ma compagne, nous attendons une petite fille qui devrait naître en 2013. C'est pour cette raison que samedi 15 décembre, nous serons dans les rues de Nantes à partir de 14h, place du Bouffet, pour manifester afin d'obtenir l'égalité des droits. Le mariage ouvert aux homosexuels, l'adoption ouverte aux homosexuels et la procréation médicalement assistée ouverte aux lesbiennes. La procréation médicalement assistée parce qu'on voudrait que notre fille ait des frères et sœurs. Le 16, nous manifesterons à Paris, à 14h à Bastille, pour les mêmes raisons. On a vraiment besoin de votre soutien pour une France plus égalitaire, donc j'espère qu'on vous verra dans les rues avec nous. Et pour toutes les autres manifs en France, vous pouvez aller sur le site internet pridemap.fr.
Salut Daniel, et salut à tous les AMG. Je voudrais revenir sur José Manuel Barroso, qui a été une des deux personnalités qui a reçu au nom de l'Union européenne le prix Nobel de la paix. Jean-Emmanuel Barroso, je vous rappelle à tous, était Premier ministre du Portugal au début des années 2000 et il a engagé son pays aux côtés des États-Unis de George Bush et de Tony Blair dans la guerre en Irak. Il a d'ailleurs organisé en 2003 une fameuse réunion aux Açores pour organiser la stratégie militaire vers l'Irak. Donc c'est quand même extraordinaire que celui qui a reçu le prix Nobel de la paix au nom de tous les peuples européens, en réalité, est un homme qui a participé à cette fameuse guerre qui était tout à fait infondée. En outre, ce grand Européen a fait capoter un projet d'Airbus qu'on appelait l'A400M, un Airbus militaire, sous pression des États-Unis en 2004. Voilà. Donc je tenais à rappeler ces différents points pour montrer qu'en fait, derrière cette personnalité, se cache quelqu'un qui défend peu les intérêts de l'Europe.
Alors, je profite d'avoir récupéré le courant aujourd'hui, parce qu'on a été coupé toute la journée avec nos chers ERDF, pour faire une annonce justement qui concerne l'énergie. Ça tombe bien, puisque ce soir, enfin vendredi 14 décembre, nous avons prévu de rencontrer Michel Leclerc, qui viendra nous présenter le projet d'éolien citoyen, parce qu'on est en train de réfléchir ici à sortir justement pas que du nucléaire, sortir du schéma classique de la production d'énergie, d'utilisation de cette énergie. Donc ce vendredi 14 décembre au Café Librairie de l'Autre Rive, Café Repère de Bérien, à partir de 20h, ouvert à tout le monde, à tous ceux que ça peut intéresser, d'engager une réflexion sur ces histoires d'énergie, qu'on en sorte enfin et qu'on en finisse.
Merci pour ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, on aborde un point névralgique, le point névralgique, géopolitiquement parlant au moins, c'est le Proche-Orient. Le Proche-Orient, on parle aujourd'hui, depuis ce matin, du Hamas, du 25e anniversaire du Hamas. On aura des élections en janvier prochain en Israël. Et pourtant, on est toujours dans cet enlisement désespérant. Tout est immobile, rien ne semble pouvoir avancer. Les meilleures volontés depuis des années et des années sont épuisées. Des milliers de livres, d'ouvrages, de films. Il y a encore un film très intéressant, paraît-il, qui sort ces jours-ci. Verrou Israël, le titre de ce film, on se demande si c'est un verrou ou vers où va Israël. C'est un sujet épuisant et passionnant, mais qui est encore entouré, pour ce qui nous concerne en tout cas en France, d'un certain nombre de tabous. C'est encore le sujet qui fâche, le sujet qu'il faut éviter ou qu'il faut savoir contourner. Et pourtant, les informations, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne manquent pas. C'est peut-être la réflexion sur ces informations qui nous parviennent qui manquent probablement, mais c'est surtout des inhibitions et, on le dit souvent dans cette émission, un certain terrorisme intellectuel qui règne notamment chez nous, en France. C'est presque devenu une particularité française que ce terrorisme intellectuel, dès qu'il s'agit d'aborder ces questions, il y a une trouille là, face au sujet qui passe, qui fâche et qui ne passe pas, et qui est pourtant extrêmement important à cause des conséquences qu'il a évidemment sur notre vie hexagonale. Aujourd'hui, on reçoit un vieil ami de là-bas, si j'y suis, qui est Michel Warszawski, qui vient d'être récompensé d'un prix de la Commission consultative des droits de l'homme du gouvernement français, un prix qui lui a été remis ces jours derniers, le 10 décembre. Lui et son association, une vieille association qui s'appelle CIA, c'est-à-dire Centre d'information alternative, et on va en parler. Et puis aussi parce qu'il publie un nouveau bouquin qui s'appelle « Destin croisé », l'histoire d'une famille, d'une saga israélienne, une famille israélienne, et puis une saga d'une famille palestinienne qui s'entremêle, une histoire en partage. Dans la préface de ce bouquin, l'ancien député travailliste Avraham Bourg, ancien président de la Knesset et président de l'agence juive, qu'on avait reçu d'ailleurs ici même dans la base, si j'y suis, dit: Michel Warszawski est l'un de ces prophètes qui prêchent la foi de la paix et de la coexistence entre les Juifs israéliens et leurs voisins ennemis, les Palestiniens. Il n'a jamais reculé face au devoir de critique, etc., etc. Et puis, ça c'est en Israël, la préface d'Avraham Bourg. Et puis, la remise de ce prix a valu un éditorial du CRIF, signé de Monsieur Prasquier, dénonçant la remise de ce prix et dénonçant en Michel Warszawski un antisioniste professionnel. Voilà deux façons dont ce prix a été accueilli. Et puis cet ouvrage aussi, donc deux appréciations. On va essayer de comprendre pourquoi dans un cas et dans un autre, et puis une façon de parler du Proche-Orient et notamment d'Israël aujourd'hui avec Michel Warszawski. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour les AMG. Ce soir se tient le Café Repère de Nantes à partir de 20h au Méliès, et c'est champ libre. Et en plus, il y aura du vin chaud, alors venez nombreux. À ce soir.
Oui, alors, juste une petite remarque, parce que j'entends chirurgien plus femme de chirurgien brandissant haut et fort le fait inexorablement supérieur qu'il sauve des vies. Mais dites-moi, les maçons qui, dans le gel mordant, dans l'humidité permanente ou le soleil torride, construisent des habitats bien chauds, ces maçons, vous savez, au visage buriné, vieillis avant l'âge, aux mains rêches, aux bras douloureux, aux vertèbres brisées, aux poumons grignotés, ces maçons qui, pour la moitié d'entre eux, meurent à peine arrivés à la retraite, ces maçons donc, combien de vies sauvent-ils? Pas quelques-unes, mais toutes nos vies, y compris celles des chirurgiens. Alors c'est Laurence Deslandes.
Salut Hervé Toulouse. En marge de ce qui se passe avec Florange, qui est dramatique, juste pour info, le gouvernement Hollande vient de faire un super cadeau à M. Arnaud Lagardère pour que Lagardère puisse sortir du capital de la DS. Donc ce monsieur, pour pouvoir se faire mettre à la porte et permettre aux gens de la DS de travailler un peu comme ils veulent, va toucher entre 1,2 milliard d'euros et 1,7 milliard d'euros. Et qui va casquer, bah, c'est un peu tout le monde et aussi le contribuable français. Voilà, bah, il y avait eu Forgeard, il y a eu Camus, et puis maintenant il y a Lagardère qui pompe allègrement dans les caisses.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Michel Warszawski. La France aurait-elle récompensé un terroriste?
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Michel Warszawski, je suis tout contente de te retrouver, on va se tutoyer. J'ai calculé, ça fait 20 ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Enfin, tu nous donnes un coup de main à chaque fois qu'on fait des reportages en Israël. J'allais dire aussi en Cisjordanie, ben non, parce que tu n'as pas le droit d'y entrer. Gaza non plus, tu n'as pas le droit d'y entrer, mais Jérusalem. Alors là, on se rencontre, alors là, tu as les honneurs du gouvernement français. Tu viens d'avoir une récompense, enfin pas tout à fait toi la récompense, la Commission nationale consultative des droits de l'homme vient de décerner une distinction à la CIA, enfin le CIA, on va dire, le CIA. Et je me souviens de ce CIA, ce centre d'information alternatif à Jérusalem, il y a 20 ans. Il y avait un petit escalier, un petit bureau, pas très luxueux, il faut bien dire les choses, pas très grand non plus. Tu œuvrais déjà en tant qu'anti-sioniste professionnel. Tu étais déjà un anti-sioniste professionnel il y a 20 ans. On va voir pourquoi je te qualifie ainsi d'anti-sioniste professionnel. Alors déjà, pourquoi cette récompense par le gouvernement français, sachant que tu es israélien?
Le prix des droits de l'homme, depuis maintenant très longtemps, définit chaque année un ou deux thèmes et s'adresse à des ONG, essentiellement des ONG. Cette année, un des thèmes était le développement durable, mais le deuxième était l'impunité. Et donc, nous avons été contactés par le biais du consulat général de France. Il nous a proposé de soumettre un dossier sur notre activité contre l'impunité des dirigeants politiques et militaires israéliens, des colons. Et pour ce travail qu'on a soumis, on a été sélectionné pour le prix. Le Centre d'information alternative, donc, a un double objectif. Le premier, comme son nom l'indique, c'est de diffuser de l'information. Au départ, c'était surtout de l'information en hébreu sur ce qui se passe au sein de la population arabe et dans le monde arabe plus largement, et en arabe sur ce qui se passe en Israël. C'était une information croisée qui venait d'une demande de part et d'autre de la ligne de démarcation entre les deux communautés. On veut mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Plus tard, on a développé ça aussi sur beaucoup d'informations pour l'international. Le deuxième aspect, qui est pour nous quelque part même plus important, c'est d'utiliser cet espace unique de Palestiniens et d'Israéliens qui travaillons ensemble.
Parce que c'est ça l'important, hein. C'est Israéliens et Palestiniens dans le même local, dans la même association.
Dans la même association, avec un seul conseil d'administration, une seule équipe, un seul programme d'action. Malheureusement, plus dans le même local, puisque une grande partie de nos partenaires palestiniens ne peuvent plus rentrer à Jérusalem, ce qui nous a obligés de passer d'un pont à un pilier à un pont à deux piliers. L'AIC est une entité, mais avec un bureau à Jérusalem-Ouest et un bureau dans la banlieue de Bethléem. Avec, et c'est quelque chose dont on est fier, avec une décision de notre conseil d'administration, ce qui est assez rare que les conseils d'administration d'ONG prennent des décisions qui exige de nos collègues israéliens d'aller au moins une fois par semaine au bureau de Bethléem, qu'on y ait à faire quelque chose ou rien.
Ah,
c'est très important pour que le mur ne se referme pas entre nous.
Vous êtes combien ?
On est aujourd'hui 12.
Qui s'intéresse à ce travail ? Les ambassades, les intellos, les journalistes ?
On a un travail qui est orienté essentiellement vers ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement social, les militants du mouvement social et politique. Du côté israélien, du côté palestinien, on a l'ensemble des forces politiques, d'ailleurs Hamas y compris, s'intéresse à ce que nous faisons et souvent nous demande, nous met à contribution, et ça c'est ce que nous en préférons, c'est lorsqu'on a une demande. On voudrait du travail sur ceci, on voudrait que vous nous mettiez en contact avec telle ou telle institution ou groupe ou mouvement, donner des clés de compréhension de l'actualité ou de problématiques plus générales. On connaît bien le terrain, que ce soit la colonisation, que ce soit les quartiers populaires du côté israélien.
Tu as quand même un peu été étonné, non, de cette récompense pour cette association?
Là, il s'agit pour la première fois d'une reconnaissance institutionnelle, d'un État. Nous avons eu beaucoup de chance, enfin j'ai eu beaucoup de chance, comme celui qui représentait le Centre d'information alternative à la remise du prix, parce que le Premier ministre était occupé à la conférence sur la faim. Ça a été au ministère de la Justice, par Mme Taubira, et c'était pour nous du tout bénef.
C'est-à-dire
une femme charmante, une femme intelligente, une femme... Je ne dis pas que Héro n'est pas intelligent, mais enfin... C'était très proche, très, une relation très intime avec les lauréats, sans langue de bois, ayant très bien saisi les enjeux de ce que chacune des associations représentait, à qui j'ai pu adresser, par exemple, à la demande de mes amis universitaires français, un appel qu'ils m'ont remis, ils m'ont dit « Sois gentil, remets-le à Madame Taubira ». Elle l'a pris, elle a dit « Je sais de quoi vous parlez, c'est un appel pour que soit abolie la directive Alliot-Marie » qui demande au procureur de poursuivre quiconque appelle à des sanctions contre Israël.
Ah, et vous y voilà.
Hein, et donc, en tant que ministère de la Justice, je ne suis pas indifférente.
Récompense qui vient après 30 ans de CIA ou AIC, évidemment, c'est bien, ça, comme toute gratification d'un long travail. Mais c'est contesté. C'est ça, évidemment, qui nous intéresse, c'est la contestation. Il y a une contestation qui vient du CRIF.
Et je viens de recevoir ce matin le Bnei Brit, qui est une autre institution juive, une espèce de loge maçonnique juive, très ancienne, qui aussi s'est fendue de deux communiqués calomnieux, même.
Le CRIF dit, remise d'un prix qui s'étonne et qui a essayé d'empêcher la remise de ce prix à un antisioniste professionnel. Cet antisioniste professionnel, il est en face de moi, il s'appelle Michel Warchavski. Et on est un petit peu étonné quand même. Cette fois-ci, il faut rappeler ce qu'est le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est une institution évidemment importante, qui est l'interlocuteur officiel du monde politique en France, qui est très influent et qui fait ce dîner annuel que l'on sait avec tout le prestige et la présence de tout le personnel politique qui se doit d'y être présent chaque année. Enfin, on connaît l'importance du CRIF. Or, ce CRIF qui parle toujours au nom des Juifs, au nom de la communauté juive française, considère que ce prix n'aurait pas dû être remis à l'association que tu présides, te considérant comme un antisioniste professionnel. Alors, on est un peu étonné qu'une association ou que cette remise de prix soit contestée, c'est tout à fait naturel. Que tu sois contesté, étant donné que tu es un intellectuel engagé, c'est tout à fait normal, ça fait partie des polémiques et du jeu démocratique normal. Sauf que là, c'est une institution qui représente, qui est censée représenter les Juifs français.
Alors, le CRIF n'est pas représentatif des Juifs de France. Le CRIF représente une petite minorité des Juifs de France. D'ailleurs, la grande majorité ne sont pas des Juifs communautaires qui s'expriment à travers des associations juives. Ils sont dans les structures politiques, syndicales, associatives françaises. Il y a une petite minorité qui est organisée en communauté. Et le CRIF représente une petite minorité de cette minorité. Il s'est autoproclamé conseil représentatif, mais cette autoproclamation est confortée par les institutions qui ont besoin d'un interlocuteur et reconnaissent au CRIF ce statut qui, à mes yeux, est usurpé. Ceci dit, pour moi, le CRIF est surtout et avant tout une ambassade. Il est l'ambassade, j'allais dire, d'Israël, mais en fait, c'est faux.
Non.
Il est depuis plusieurs années l'ambassade du Likoud en France. Il est un
De l'aile droite.
De l'aile droite de la classe politique israélienne, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je crois que le CRIF est un des premiers lobbies. C'est un lobby pro-israélien, à l'américaine, aux États-Unis, c'est tout à fait...
C'est les PAC.
Mais c'est un système légitime, un système très ancien, de groupes de pression qui agissent sur les politiciens, utilisant, et là, je vais dire des mots durs, utilisant le chantage à l'antisémitisme pour faire passer son message, et d'abord sa représentativité. si une partie importante du personnel politique français est si tolérant par rapport au CRIF, souvent ils s'aplatissent devant le CRIF, c'est parce qu'ils ont peur, et on l'entend souvent dans les apartés, ils nous le disent, ils ont peur d'être taxés d'antisémitisme, on instrumentalise cette accusation, mais toi Daniel, tu l'as connu aussi, il y a une dizaine d'années, on instrumentalise cette accusation pour fermer la bouche à toute critique éventuelle.
On est quand même un peu étonné, on va voir dans les jours prochains, que la communauté juive française, communauté au sens large, ou que les juifs français, comme on vous trouve, les français juifs, peu importe, ne critiquent pas ce CRIF. Il y a un silence quand même.
Oui et non. Précisément, j'ai reçu il y a quelques jours une déclaration, un nombre assez impressionnant de lettres personnelles, mais aussi une déclaration de juifs organisés dans la communauté de Marseille. Alors, pour être très honnête, ma sœur est très active là-bas et elle défend son frérot. Mais elle est très active dans les institutions communautaires et elle a répondu vertement, elle et d'autres, aux prises de position. Alors là, c'est du Bnei Brit local, c'est une espèce de mini-CRIF régional qui a publié à peu près les mêmes arguments que le CRIF national, sauf avec un peu plus de bêtises et de vulgarité.
Jerusalem, our heart, our soul.
Jérusalem, notre âme, notre cœur.
Yet today,
et pourtant, aujourd'hui encore, la Jérusalem juive est sous la menace de la communauté internationale. Pour faire face à cette menace, le Centre international Bnei Brit s'est installé à Jérusalem voilà 30 ans pour s'opposer à la résolution 478 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui enjoignait tous les pays membres de l'ONU à retirer leur représentation diplomatique de Jérusalem.
Nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites pour promouvoir l'image d'Israël sans les habituelles distorsions dont nous sommes victimes.
Votre soutien permettra au Centre de poursuivre son travail visant à renforcer les liens entre la diaspora et Israël, à être en première ligne de l'aide humanitaire à travers le monde, à venir en aide à ceux qui ont le plus besoin en Israël, que ce soit en temps de paix ou en période de conflit. Le Centre mondial Bnei Brit apprécie et compte sur votre soutien.
Comment expliquer quand même ce glissement de la représentation juive en France, de l'image du monde juif en France, passant de l'image des judéo-bolcheviques, hein, autrefois, plutôt à l'extrême gauche, à gauche. Là, maintenant, il y a vraiment une image donnée par le CRIF, effectivement, par les différentes institutions, presse, radio, d'un monde qui serait effectivement proche du Likoud, qui serait très à droite, voire même à l'extrême droite.
Je pense qu'il y a deux facteurs qui permettent d'expliquer cette dégénérescence, parce que pour moi c'est une dégénérescence. Le premier est de l'ordre de la sociologie politique. C'est-à-dire, la grande majorité des intellectuels, par exemple, mais pas seulement, juifs en France, ne s'expriment pas en tant que juifs. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, une pétition circulait en tant que juif qui venait critiquer la politique israélienne. Et on m'avait demandé, je me trouvais à Paris à ce moment-là, de m'adresser à des amis ou des personnes que je connaissais du monde intellectuel, scientifique, juif et politique. Et je me souviens au moins de deux réponses. L'une, c'était Daniel Ben Saïd. Il dit, mais j'ai jamais signé en tant que juif, laisse-moi tranquille. J'ai signé des centaines de pétitions. Mais en tant que Daniel Ben Saïd, militant, en tant que Daniel Ben Saïd, homme politique, pas en tant que juif. C'était pas facile de le convaincre que cette fois-ci c'était important. La même chose avec le professeur Schwarzenberg. Je suis allé le voir, il m'a dit « Mais fiche le camp, je ne signe pas en tant que juif ». Je crois qu'il l'a fait aussi quand même. Donc ça c'est une première chose, c'est que les juifs progressistes sont moins communautaires, beaucoup moins communautaires, et se définissent beaucoup moins ou s'affirment beaucoup moins en tant que juifs, mais beaucoup plus en fonction de leur appartenance politique, syndicale ou autre. Le deuxième facteur, qui est plus important quand même, c'est un véritable glissement qui a eu lieu après la guerre de 67 et dont on a senti les effets vers la fin des années 70. C'est tout un processus de changement d'identité. Pour les juifs communautaires, c'est-à-dire c'est pour une partie importante des juifs communautaires, que ce soit le rabbinat, le consistoire, le CRIF et ceux qui se retrouvent derrière, Israël est devenu un élément constitutif de leur identité. De mon temps, les années 60, Israël ne jouait aucun rôle dans notre identité juive française. On était français, on était juif, on se définissait par rapport à la sensibilité religieuse de notre appartenance à la communauté juive. Je me souviens des mouvements de jeunesse sionistes dans le centre communautaire de Strasbourg, une grande communauté, étaient groupusculaires, on rigolait, on ne comprenait même pas ce qu'ils voulaient. Ils parlaient un peu d'hébreu, on ne comprenait pas pourquoi. Ils avaient le déguisement du pionnier israélien, et ça nous faisait rire. Nous, on était des scouts, on avait le déguisement des jeunesses locales, qu'elles soient catholiques, protestantes, laïques.
Il faut rappeler que ton père était le grand rabbin de Strasbourg.
Et justement, alors il y avait une affinité spirituelle par rapport à Israël, mais certainement pas une identification avec l'État d'Israël en tant que tel, et cette inconditionnalité face à la politique israélienne. Ça a complètement changé à partir de la guerre des six jours, la guerre de 67. Les Juifs de France, y compris, et là je me souviens et j'ai entendu plus tard des amis qui étaient totalement assimilés, totalement pas juifs dans leur comportement, dans leur identification, il y avait une peur réelle, en Israël aussi, manipulée peut-être, mais une peur réelle qu'Israël allait disparaître. Et il y a eu une mobilisation, une vague de mobilisation, je dirais presque unanime, des Juifs d'Europe, par exemple, ou des États-Unis, mais pour sauver Israël, des collectes d'argent, du lobbying politique, pour sauver Israël. Et juste après, c'est la grande victoire en six jours contre trois armées arabes. Alors, on passe de la peur panique à l'euphorie. Mais tout ça change la mentalité, l'approche d'une partie importante des Juifs de France, certainement des Juifs communautaires, des Juifs organisés, dans leur relation par rapport à Israël. Et à la grandeur de leur peur, leur attachement.
Il y a sans doute eu un autre glissement qui a été entre ce soutien à Israël et cette inconditionnalité de soutien à la politique israélienne qui fait qu'aujourd'hui, nous revoilà avec le CRIF, soutient aveuglément la politique israélienne. Et il ne s'agit plus du soutien à Israël en tant qu'un État menacé, qu'on aime et qu'on soutient pour des tas de raisons, ce qui peut tout à fait se comprendre, à un soutien à la politique israélienne, ce qui est fort différent. Une politique qui est, comme on vient de le dire, de droite, voire d'extrême droite actuellement.
Absolument. Et il suffit de voir la différence entre le positionnement d'un Théo Klein à la tête du CRIF, il y a plus de 20 ans maintenant, et le positionnement d'un Richard Prasquet aujourd'hui. Théo Klein est a lui-même, je crois même, la nationalité israélienne. À un certain moment, il a pris la nationalité israélienne. Donc, défend Israël, mais avec un esprit critique. Sans cette inconditionnalité qui est stupide souvent, qui s'exprime devant le déni de réalité et les positions actuelles des dirigeants du CRIF, qui eux sont véritablement des défenseurs inconditionnels des pires crimes commis par les Israéliens. Ce que jamais n'aurait fait le CRIF, il aurait fait le silence au moins, il aurait exprimé un regret, ce n'est pas le cas. Il y a une autre spécificité française, et en particulier si on le compare par exemple aux organisations juives américaines. Les organisations juives américaines, qui sont extrêmement puissantes, mais extrêmement diversifiées et dans un débat extrêmement riche sur l'identité juive, mais aussi sur la relation à Israël, sur l'attitude à adopter face aux politiques israéliennes. Je lis assez souvent des magazines juifs américains, c'est plein de vie, plein d'échanges, parfois même assez fort, le ton monte, mais il y a une grande tolérance face aux positions à la diversité des positions. En France, c'est un terrorisme. Il y a une voix juive qui doit s'exprimer, et c'est pour ça qu'ils sont tellement en colère contre moi. C'est d'une pauvreté affligeante. Le niveau du débat culturel, du débat identitaire, de la réflexion des Juifs de France est primaire et sous-développé si on le compare à l'Angleterre, mais certainement aux États-Unis.
Est-ce que cette commission consultative des droits de l'homme, là, qui vient de t'accorder cette distinction, c'est tout ça, bien évidemment. Donc il y a une certaine façon d'affronter un peu le CRIF.
J'imagine, ce sont des gens intelligents. Elle a une certaine autonomie par rapport au pouvoir politique. Elle est nommée par la République, mais ce sont des personnes qui représentent des mouvements et des associations, dont beaucoup, je ne le savais pas, j'ai découvert, sont des partenaires de l'AIC avec qui nous travaillons, mais ça je ne savais pas. L'ACAT, par exemple, le Comité contre la torture en France, est un partenaire de longue date, justement dans notre premier combat contre l'impunité, qui était contre les tortionnaires israéliens, on a travaillé avec l'ACAT. Je ne savais pas qu'ils étaient dans le conseil consultatif, je les ai rencontrés là-bas. Le CCFD, qui est un partenaire à nous depuis le Comité catholique contre la faim et pour le développement, aussi se trouve là-bas. Il y a donc une autonomie, et je crois qu'il y a une volonté de la part, je ne vais pas dire du gouvernement français, mais quand même le gouvernement était au fait des décisions, des délibérés qu'il y avait, et n'était pas indifférent, une partie des institutions gouvernementales, de donner un petit avertissement à Israël. Je n'hésite pas à dire qu'on est instrumentalisé en recevant ce prix. Comme toujours, d'ailleurs, quand on donne un prix à quelqu'un et quelque organisation, c'est pour faire passer un message. En disant, nous ne sommes pas inconditionnels de votre politique et nous le marquons en saluant le travail de ceux qui sont assez critiques et même dissidents par rapport à cette politique.
وقفت وسط الغرفة أفتش عن جعبي أتفقد المنفضة اللمبة الخسارة الربح الباب التصاوير فصغرت في نظري حتى صبرت طويلا أمام المرآة لأرى وجهي فتصفحت الهواء العابق بالدخان والسعال وكدت أمجه وأنساه وضأمت حتى صبرت كثيرا أمام الباب لأدخل ثم لأخرج ثم لأتمدد بلا صوت على السرير المفتوح الأعزل الأخرس وتذكرت يوم قتلت واغتصبت وقطعت إربا إربا ليمونة ليمونة سيجارة سيجارة وسحلت وبكيت للمرة الأولى على موتي وعلى الطبيعة.
On est avec Michel Warchavski. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de l'objet de cette rencontre qui est le bouquin que tu publies qui s'appelle « Destin croisé », mais je voudrais qu'on reste encore sur la réaction du CRIF et sur l'indigence, effectivement, de cette réaction qui te qualifie d'antisioniste professionnel. Michel Warchavski, qui était le ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle en 1959.
Couve de Murville.
Maurice Couve de Murville. Imaginons que Maurice Couve de Murville, en pleine guerre d'Algérie, en 1959, ait déclaré « La solution avec l'Algérie, c'est de faire aux Algériens ce que les Américains ont fait aux Japonais. » Imaginons qu'il ait dit une chose pareille à cette époque. Immédiatement, on aurait pensé que ce type était devenu fou. Il aurait été obligé de démissionner, ça aurait été un scandale. Le gouvernement serait tombé et de Gaulle serait parti. Eh bien, c'est ce qui a été dit par votre ministre des Affaires étrangères à vous, à Victor Lieberman, il y a peu de temps, en 2009, en disant « La solution avec les Palestiniens, avec Gaza, je crois que c'était plus précisément Gaza, c'est de faire ce que les Américains ont fait aux Japonais. » La différence, c'est que ça n'a pas eu d'écho considérable, peut-être bien en Israël, qui va me le dire, mais en tout cas, hors d'Israël, absolument aucun écho. Il continue, c'est un exemple, une des déclarations de ce qui est toujours en poste et qui, pour les prochaines élections législatives que vous allez avoir en Israël au mois de janvier, est un des pôles à la droite de votre champ politique, puisque votre Premier ministre Netanyahou se rapproche de Lieberman. Il s'en écarte pas.
Ils font liste commune.
Ils font liste commune. Lorsque Ahmadinejad, qui est sans doute pas un type fréquentable et qui dit des choses absolument stupides, dit des choses comme ça, c'est un scandale planétaire. Mais pas Lieberman. Pas Lieberman, il peut dire des choses comme ça. Lorsqu'il dit des choses pareilles, il y a silence du CRIF. Je n'ai pas dit soutien, mais en tous les cas, silence du CRIF. Donc on est dans une situation de deux poids, deux mesures qui est parfaitement préoccupante.
Il y a deux poids et deux mesures dans la politique européenne, dans la politique internationale. On tolère chez Israël, on permet aux dirigeants israéliens des choses qu'on ne permet à personne d'autre.
Cette impunité, cette immunité finit par être préoccupante parce qu'il y a une sorte de détestation d'un pays ou d'un gouvernement. Alors, on confond le gouvernement et le pays, on vient de le dire, et je pense que ça finira à un moment ou à un autre par être déplorable
pour les Israéliens eux-mêmes et peut-être aussi pour les Juifs en général. Est-ce qu'il n'y a pas là la fabrique d'un risque d'un nouvel antisémitisme ?
Certainement. Tu nous avais suivis dans une partie de notre tournée avec la Chaïd et Dominique Vidal dans les banlieues, il y a une dizaine d'années. Combien de fois on a pu entendre des jeunes Français, qu'ils soient des Français blancs ou des Français d'origine arabe ou d'origine africaine, jeunes qui disaient « Mais pourquoi on laisse Israël faire ce qu'on dénonce chez tous les autres ?» Ce deux poids, deux mesures les pousse à croire qu'il y a un lobby, une espèce de machine, d'un pouvoir qui est vraiment le discours antisémite du 19e siècle et du début du 20e siècle. Une machine qui contrôle les politiques et qui contrôle la finance. C'est leur interprétation de cette immunité, de cette impunité et de cette tolérance, ultra-tolérance, qu'on a vis-à-vis que les médias, beaucoup de médias et que beaucoup, beaucoup de politiques ont vis-à-vis d'Israël et qui n'ont pas vis-à-vis d'autres. Et certainement que c'est lourd de réactions, de grilles d'analyse antisémites et finalement de comportements antisémites.
Impunité, injustice, deux poids, deux mesures, tout ça entraîne amertume, ressentiment, et à terme, il y a un risque d'expression de racisme et d'antisémitisme. L'antisémitisme est un reptile qui dort au fond de la baignoire et qui peut tout à fait se réveiller. Personne ne garantit que ce monstre-là soit tout à fait endormi. Il y a donc un risque qu'il faut bien cerner et donc il faut bien connaître le mécanisme et les origines et bien cerner les pompiers pyromanes. Mais d'un autre côté, on observe à travers l'Europe une évolution étrange des extrêmes droites qui se rapprochent de l'extrême droite israélienne et du sionisme israélien et qui disent « Ah, nous, on est tout ce qu'il y a de féministes, on est pour les gays, on est pour Israël, on n'a jamais été antisémite de notre vie, oh, pas du tout, pas du tout. Notre cible, c'est l'islam, c'est les musulmans. » Ce mouvement s'affirme, se confirme, y compris d'ailleurs dans le Front National, en une version un petit peu plus moins brutale peut-être dans le Front National, mais c'est exactement la même démarche. On voit un rapprochement entre Marine Le Pen et la droite et l'extrême droite israélienne. Voilà un extrait d'un excellent reportage dans Spécial Investigation sur Canal+ en 2010.
Impensable il y a quelques années encore.
Spéciale Investigation.
Israël est devenu un lieu de pèlerinage pour les leaders de la droite populiste européenne.
Canal+, 23 octobre 2011.
Jérusalem, le stade ultime de leur stratégie de dédiabolisation. Il y a 6 mois, dans l'indifférence quasi générale, l'histoire de cette nouvelle extrême droite a basculé. Décembre 2010, scène surréaliste sur une base de l'armée israélienne.
Order leader photo.
Les leaders populistes du FPÖ autrichien, du Vlaams Belang belge et du SD suédois reçoivent un accueil officiel dans plusieurs communes israéliennes. L'homme qui enfile l'uniforme de Tsahal s'appelle Heinz Christian Strache. C'est le président du FPÖ autrichien, un parti fondé en 1956, longtemps dirigé par un ancien officier SS. Le voyage a été peu traité par les médias israéliens, hormis ce reportage de la deuxième chaîne.
Comment ont-ils réussi à évacuer toute la dimension antisémite et nazie de leur discours jusqu'à se retrouver ici à Shomron, en Israël ?
Monsieur Strache, en 1989, vous avez participé à un camp de jeunesse néo-nazi. Alors qu'est-ce que vous faites ici dans l'État juif d'Israël ?
Ces allégations sont totalement fausses. Je n'ai jamais été négationniste. Je n'ai aucun passé antisémite. Je n'ai jamais été nazi.
Si Strache affirme avoir tourné le dos au sombre passé du FPÖ, ce n'est pas le cas d'un autre membre de la délégation,
un certain Andreas Mölzer.
Lui n'est absolument pas ambigu. Il était à la tête d'un hebdomadaire qui s'appelle Third Sight, qui est publié à Vienne. Et quand on voit
Jean-Yves Camus,
le livre que Third Sight vend à ses lecteurs, on est absolument effaré de constater que ce monsieur qui va à la Knesset israélienne vend des ouvrages négationnistes et des ouvrages antisémites.
Sur le site de Third Sight, on trouve par exemple l'œuvre complète de David Irving, un historien anglais condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir nié l'Holocauste. Pourtant, la délégation regroupant l'extrême droite autrichienne, belge et suédoise se revendique désormais pro-israélienne et anti-islam. Leur déclaration de Jérusalem scelle la mutation de cette mouvance.
Nous sommes ici à l'avant-garde de l'Occident démocratique contre la menace totalitaire de l'islam fondamentaliste.
Je ne sais pas si cette remise de ce prix va avoir une conséquence en Israël, pour vous, mais j'aimerais savoir la place que tu occupes en Israël. On sait que tu es une personnalité connue, une figure de la scène intellectuelle, et pas seulement la scène israélienne en général, mais comme tu es un vieux militant de la paix, placé à la gauche de gauche, il faut préciser aussi ces choses-là, quelle est aujourd'hui votre influence, votre rôle, sachant que derrière ce... On vient de parler du gouvernement que vous avez. Ce gouvernement, il vient pas de nulle part. Il est élu.
On a parlé du prix comme une certaine reconnaissance par un pays européen du travail que nous menons. Je dirais que cette notion de reconnaissance, on l'a connue en Israël aussi. Et particulièrement dans la foulée du processus d'Oslo et d'une ouverture que représentait Yitzhak Rabin et d'une démocratisation, d'une libéralisation, je dirais, des mœurs politiques. Le Centre d'information alternative, et moi personnellement aussi, de paria, on était devenu fréquentable, voire même un peu sexy. Cette réalité s'écroule au cours des dernières années. Aujourd'hui, quelqu'un comme Avram Bourg, l'ancien président de la Knesset, il est perçu comme un gauchiste, traître, et on se retrouve dans le rejet. Et c'est moi qui dois dire, on se calme, on a connu ça, c'est pas grave, on passera à ce moment-là. À ces gens qui appartenaient au pouvoir, qui étaient des députés, qui étaient des ministres, qui étaient des journalistes connus, et qui sont maintenant devenus, ce que nous avons connu souvent, des parias. Donc, on n'est pas dans l'isolement qu'on avait connu avant, parce qu'on se retrouve dans cette position de paria avec beaucoup d'autres.
Ça veut donc dire que l'opinion israélienne n'est pas de votre côté, mais bel et bien du côté de Netanyahou et de Lieberman.
Clairement, et on le verra le mois prochain aux élections, la droite va faire un tabac. La droite est au pouvoir, la droite est majoritaire, mais là, elle va être ultra-majoritaire aux prochaines élections. C'est moins dû... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un glissement à droite, mais je dirais que c'est pas ça la raison essentielle. Le glissement n'est pas si spectaculaire. Il est important. C'est surtout l'écroulement de la gauche. C'est que face à cette droite, il n'y a plus de gauche. Une gauche qui a disparu, qui a fondu comme neige au soleil, qui est déjà très minoritaire au Parlement et qui sera, selon les derniers sondages, groupusculaire face à la droite dans ses composantes diverses, avec en arrière-fond une atmosphère politique, une atmosphère, je dirais même, de société, où le racisme se lâche dans le discours officiel, où des lois impensables, des lois discriminatives, par exemple, par rapport à la minorité arabe en Israël, sont votées tous les quelques semaines, où il y a une compétition au Parlement de qui va proposer une loi encore plus discriminatoire et faire la déclaration encore plus menaçante face, je n'imagine pas, face aux Palestiniens des territoires occupés, ou à Cisjordanie, à Gaza, mais même face aux citoyens israéliens. Le populisme ultra-droitier et fasciste même, qui domine chez ceux qui seront les nouveaux élus, aura un impact, mais un impact plutôt limité sur la politique extérieure d'Israël. Par contre, il aura un impact terrible sur le régime et sur la minorité arabe d'Israël. Il faut s'attendre à des moments extrêmement difficiles. On n'est même pas sûr que de nouvelles lois ne seront pas votées qui empêcheront ou qui rendront beaucoup plus difficile l'élection de députés arabes.
Mon nom est Zuckerman et j'enseigne à Jérusalem, à la yeshiva qu'on appelle Har Hamor.
Là-bas, si j'y suis, 11 novembre 2011.
J'ai une grande famille de 12 enfants. Je suis venu ici en Israël en venant de Bruxelles. Et donc voilà la source de mon français.
Depuis quand vous êtes ici?
Ça fait déjà plus que 50 ans.
Et parmi vos élèves, vous avez eu Michel Barchavski?
entre autres, oui.
Oui, dont le papa était rabbin aussi.
À Strasbourg. Les Arabes n'ont jamais eu de souveraineté ici. Nous avons ici à peu près dans notre État 1 million d'Arabes. Et si vous, comme tant que reporter, vous allez un peu visiter ces gens-là, ils ont toute la liberté. On essaie de leur donner toute la possibilité de culturel et cultuel, car nous devons respecter l'étranger qui habite chez nous. Il n'y a aucun problème. Ce sont des êtres humains et nous devons les aider. Ils sont chez nous dans une démocratie très, très, très large, très libre et permettant tant de choses. Nous devons aussi déclarer que jusqu'au Jourdain, l'État d'Israël voit sa frontière.
C'est ça, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de ligne verte, il n'y a pas de frontière de 67, et le mur qui a été construit, pour vous, est absurde.
Absurde, totalement absurde. Ça n'empêche aucun passage, premièrement. Ce n'est pas une frontière qui donne notre sécurité. Et surtout, surtout, ça rendra malheureux ces Arabes, ces gens qui, en fin de compte, sont d'un niveau culturel et économique très bas. Et heureusement, en venant ici, chez nous, dans l'université, ils montent leur niveau. Ils reçoivent une culture qui est un peu moins primitive, tout en respectant l'islam. Je parle de leur culture et de leur...
En somme, vous avez une sorte de mission civilisatrice.
C'est-à-dire, nous avons premièrement à revenir chez nous, être souverain sur notre
entre
terre.
Entre le Jourdain et la mer.
Entre le Jourdain et la mer Méditerranée.
Donc ça veut dire pas d'État palestinien.
Il n'y a pas d'État palestinien. Et si les Arabes veulent rester chez nous, reconnaître nos souverainetés, ce sera un problème, car toujours quoi, des minorités avec d'autres cultures et d'autres cultes. C'est un problème, mais nous les accueillons avec les bras ouverts, quoi.
Donc pour vous, la solution, c'est le déplacement des Palestiniens vers la Jordanie.
Non. Je ne cherche pas une solution, car ce n'est pas mon problème. Je ne cherche pas une solution. Vous savez très bien, comme reporter, qu'en fin de compte, ils veulent que nous disparaissions. Ils veulent nous jeter à la mer. C'est inviable. Pour eux et pour nous, car nous allons réagir.
Ce qui a indigné M. Prasquier, le président du CRIF, c'est que tu aies déclaré quelque part que tout se passe en Israël comme si Israël avait toujours besoin de la guerre, enfin à travers la politique aujourd'hui menée. Et ça lui semble absolument insupportable de critiquer de cette façon la politique de ce pays.
Ben, évidemment, pas seulement pour Richard Prasquier, mais pour l'appareil de propagande israélien, tout est construit autour du fait qu'on est les victimes. Nous, Israël, on est les victimes. On est les agressés. On est le petit David face au Goliath arabe, face à un monde hostile, voire antisémite.
Tout le monde est contre nous, mais on s'en fout.
Tout le monde est contre nous, mais on s'en fout. C'est exactement la chanson récurrente que chantent les jeunes Israéliens depuis maintenant des générations. Et ce que ne peut pas supporter Monsieur Prasquier, ou je dirais même moins que les dirigeants israéliens, qui sont quand même plus proches de la réalité et moins dans la mystification, c'est que Israël n'est pas le petit David face au Goliath arabe. Israël est une grande puissance militaire qui a pris les initiatives de guerre, de conflit, pas simplement contre Gaza, sans prendre de gros risques, mais contre ses voisins arabes, est un pays guerrier, et que la guerre menée par Israël appartient à un plan stratégique de recolonisation du monde, le plan néoconservateur. La guerre globale et permanente, ce n'est pas Israël qui l'a inventée, mais elle s'y est impliquée à fond, jouant même un rôle d'avant-garde dans cette guerre au Moyen-Orient. Alors je ne sais pas si M. Prasquier fait semblant d'être bête, ou il est vraiment ignorant, mais c'est un discours ouvert en Israël. On ne cache pas les affinités, le gouvernement israélien, ses affinités à George W. Bush, sa stratégie. Israël a été un des rares États qui a pris le choc des civilisations, cette philosophie mystificatrice, pour argent comptant. On était dans le choc des civilisations. On défendait les valeurs judéo-chrétiennes contre la menace de l'islam. C'était le discours officiel. On le disait ouvertement au Centre d'information alternative. Nous le répétions. Beaucoup de notre travail, c'est de traduire en français ou en anglais ce qui est écrit dans la presse en hébreu. C'est des déclarations de nos dirigeants. Alors c'est vrai que lorsqu'on le lit en français, ça fait mal aux oreilles. Ça n'en est pas moins ce qui a été dit par nos dirigeants.
Alors malgré tout ça, tu continues inlassablement et de militer. Quand tu racontes tout ça, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Comment veux-tu vivre encore à Jérusalem? Comment tu peux vivre encore
dans ce pays. Je sais à quel point tu l'aimes. Tu as dit une chose très étonnante sur Israël. On t'a posé la question de savoir qu'est-ce que représente Israël pour vous. Et tu as dit « J'aime Israël comme un enfant né d'un viol ».
Non, comme on aime son enfant né d'un viol. En fait, je citais mon ami, le député arabe, député palestinien à la Knesset, Jamal Zahalka, qui est aussi un grand intellectuel. Et il a dit, lorsqu'on lui parlait de la légitimité des Juifs en Israël, Palestine, il a dit, cette terre a enfanté deux enfants, un enfant légitime et un enfant illégitime. Mais cet enfant illégitime, puisqu'il est venu par l'agression coloniale au début du siècle dernier, il n'en est pas moins un enfant. Dès lors, il a le droit d'exister. Comment il est né, c'est important pour le comprendre historiquement, mais une fois qu'il est là, il est là. Et j'ai repris souvent, pour moi, ce propos qui me semble, bon, avec toutes les limites qu'a une image, mais cette image parle. Alors, quant à mon affinité affective pour Israël, oui, je l'ai dit d'ailleurs à la remise du prix, ça fait sourire beaucoup de gens. J'aime ce pays. C'est là que j'ai replanté mes racines, disons, très jeune. C'est mon environnement, c'est ma culture, c'est mon paysage, c'est mes odeurs et mes saveurs, comme dirait ce Chirac. C'est là que je me sens à la maison, beaucoup plus qu'à Strasbourg, que j'ai quitté très jeune. C'est là que j'y ai mes amis, toutes mes références d'ailleurs intellectuelles et mon combat politique. Et c'est quelque part par amour, par grâce, que nous demandons de sanctionner Israël. Sanctionnez-nous, si vous nous aimez, sanctionnez-nous. Parce que ce n'est que dans la sanction, ce n'est que dans l'absence d'impunité, pour nous dire, ça suffit comme ça, vous allez droit dans le mur. Comme un parent peut parfois punir son enfant pour son bien, c'est-à-dire, si on le laisse faire n'importe quoi, bah, il fera n'importe quoi. Et il se brûlera les doigts.
Là, on va se dire, d'accord, dans quelques secondes, il va faire l'apologie du boycott.
Ah ben, pas dans quelques secondes, depuis des années. Nous sommes au Centre d'information alternative, et moi, personnellement, qui fais souvent des tournées à travers le monde, nous sommes partie prenante de la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions, parce que nous pensons que c'est que par des sanctions de la communauté internationale, et en attendant par des mesures symboliques, plutôt de boycott par les acteurs de la société civile, que le bon sens reviendra dans l'opinion publique israélienne et finalement chez nos dirigeants. S'il y avait des sanctions politiques, on n'aurait pas besoin de boycott économique. Et les campagnes de boycott sont, à mes yeux, orientées pour pousser les États et les institutions internationales à prendre des sanctions. Ce jour-là, on a gagné. Le jour où il y aura des sanctions internationales, le bon sens reviendra en Israël, j'en suis persuadé. Et l'impunité, ce contre quoi nous nous battons et pour lequel on a eu ce prix, l'impunité... C'est exactement le contraire de cette campagne BDS. Cette campagne BDS vient dire plus d'impunité.
بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلي على طول وقت شفت ع بحر المي عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم
voilà. Alors, on va conclure sur l'objet de cette rencontre, Michel. C'est la publication de ton bouquin, de ce bouquin, Destin croisé, où, là, vraiment, t'es inlassable. Tu racontes dans ce bouquin la saga de deux familles, une famille juive et une famille arabe, à travers combien, trois générations ?
Quatre générations. Alors, ce livre, c'est en fait une réédition. J'ai longtemps hésité, et c'est l'avis d'une amie prof, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne le ferais pas sous forme un peu romancée, sous forme, pas simplement un livre d'histoire, mais un livre qui raconte l'histoire. Comment, à travers la vie de ces familles, on peut raconter l'histoire des Juifs d'Europe, mais aussi l'histoire des Juifs du monde arabe, l'histoire des Arabes de Palestine, mais aussi à travers le monde arabe entier, parce qu'il y a une dispersion palestinienne, et en fait raconter l'histoire du XXe siècle dans cette région du monde, à travers ces deux familles. Je dirais que des nombreux livres que j'ai écrits, il y en a certains qui ont une qualité littéraire supérieure à ce livre. Et pourtant, c'est mon enfant préférée. C'est moi qui suis dans cette histoire.
Voilà, et on vient d'apprendre il y a environ un quart d'heure, sans qu'il y ait vraiment de relation de cause à effet entre cette émission et cette nouvelle, que Avigdor Lieberman, le ministre israélien des Affaires étrangères, vient de démissionner. Bien que je sache n'avoir commis aucun délit, j'ai décidé de démissionner de mon poste de ministre des Affaires étrangères et de vice-premier ministre, a-t-il déclaré dans un communiqué sous forme de courriel, en formant le vœu de pouvoir laver son nom sans délai. Il était effectivement poursuivi pour différentes affaires. Donc démission du ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Merci à tous, merci à Michel Warchavski pour cet entretien. Je rappelle le titre de son bouquin « Destin croisé ». Merci à tous. Je resignale le film que j'ai pas vu, dont on m'a dit le plus grand bien, de Camille Clavel, « Vers où Israël ?». Je remercie aussi le Tonneau des Halles, le bistrot de la rue Montorgueil, 28 rue Montorgueil, à Paris, où nous avons fait cet entretien. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Même chose sur là-bas.org, la-bas.org. Et puis il y a aussi la page Facebook de l'émission. Alice Berger et Jean-Claude Godard étaient à la technique aujourd'hui. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Un jeune sur quatre est au chômage. L'heure n'est plus au constat, il est urgent d'agir. La Fondation Apprenti d'Auteuil soutient les jeunes et leurs familles pour les aider à reprendre confiance, à se reconstruire et trouver leur place dans la société. Ensemble, mobilisons-nous pour la jeunesse en difficulté sur apprenti-auteuil.org.
Le foie gras, moi je l'aime du Sud-Ouest. Je suis certain de son origine et de sa saveur.
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, c'est écrit, c'est garanti.
Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Midi-Pyrénées.
Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin.
Sur les épaules de Darwin, l'émission culte de Jean-Claude Amezen est devenue aujourd'hui un livre. Ce livre est un voyage. Un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux. Un voyage à la rencontre de nous-mêmes. Sur les épaules de Darwin, un livre de Jean-Claude Amezen, coédité par France Inter.
16h01 sur France Inter. On se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Nicolas Teilhard. Salut!
C'est une affaire qui interpelle alors que près de 2 millions de Françaises ont recours à la pilule de troisième génération. Une jeune femme victime d'un AVC qui l'a rendue handicapée a décidé de porter plainte contre le groupe pharmaceutique Bayer qui commercialise cette pilule. Un moyen de contraception que cette Bordelaise accuse d'être à l'origine de son accident et donc de son handicap. Sa plainte vise également l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui n'a pas demandé le retrait du médicament en violation du principe de précaution, selon l'avocat de la jeune femme aujourd'hui âgée de 25 ans. Près de 15 000 plaintes visent déjà le groupe Bayer aux États-Unis. On a appris ce midi la disparition de Maurice Herzog à l'âge de 93 ans, ancien résistant puis pionnier de l'alpinisme avant de se lancer dans une carrière politique. Herzog restera comme le premier homme à avoir gravi un sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. C'était l'Annapurna qu'il avait escaladé en 1950 en compagnie de Louis Lachenal. À Marseille, un homme de 28 ans mis en examen pour homicide aggravé. Il est soupçonné d'avoir tué une avocate le 30 novembre dernier dans son cabinet du centre-ville. Assassinat qui avait provoqué la stupeur dans la ville et dans la profession. Interpellés eux aussi, son père et son frère ont été relâchés ce matin. Des affaires appartenant à la victime avaient été retrouvées à leur domicile. De nouvelles manifestations en Égypte cet après-midi à la veille du référendum constitutionnel controversé. Adversaires et partisans du projet et derrière lui du président Morsi sont descendus dans la rue. Des accrochages ont déjà eu lieu à Alexandrie et des affrontements sont redoutés au Caire où l'opposition organise en fin de journée une marche de contestation en direction du palais présidentiel. On pourra l'appeler la jurisprudence Depardieu après la polémique sur l'installation de l'acteur français en Belgique. François Hollande annonce qu'il contrevoit les conventions fiscales passées par la France avec les autres pays membres de l'Union européenne. En natation, Florent Manaudou va tenté la passe de 3. Champion olympique du 50 mètres nage libre l'été dernier à Londres, le jeune Français a confirmé sa suprématie sur la distance il y a 2 semaines lors des championnats d'Europe en petit bassin. Et ce soir, c'est le titre mondial qu'il visera lors d'une finale dont il est le favori, Franck Ballanger.
Champion olympique du 50 mètres nage libre, champion d'Europe en petit bassin à Chartres le mois dernier, meilleur temps des demi-finales hier à Istanbul. Florent Manodou sera le favori logique de la finale de ce soir et le Marseillais assume ce statut.
Je pense que ouais, ça va se jouer entre Morozov, Bovel et moi. Je pense que Irvine est un peu limité par rapport à ses parties non nagées. Après, on ne sait pas, il peut nous surprendre, il a beaucoup d'expérience. Donc, j'avais déjà vécu ça, être attendu à Chartres et j'ai plutôt bien vécu, même si la finale est un petit peu compliquée. Je pensais pouvoir faire mieux, donc voilà, il va falloir faire avec.
S'il parvient à museler la concurrence, Florent Manodou réussirait un triplé inédit jusque-là pour un Français. En remportant les Jeux et les championnats d'Europe et du monde en petit bassin la même année, il s'adjugerait en plus le seul titre qui manque à sa sœur, Laure Manodou, la meilleure nageuse française de l'histoire.
Ouais, c'est vrai que je pense qu'elle n'a jamais participé aussi, donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais gagné. Donc si jamais je le gagne, je pourrais lui envoyer un petit message et lui dire que j'ai gagné ça et pas elle, quoi.
Et visiblement, Laure Manodou n'attend que cela. Dès hier, elle a envoyé un message d'encouragement à son petit frère sur les réseaux sociaux, un « Allez mon frérot » suivi de 3 petits cœurs. À Istanbul, Franck Ballanger, France Inter.
Allez, avant de parler musique, un dernier mot de cinéma. Le prix Louis Deluc décerné à Benoît Jacquot pour son film « Les adieux à la reine ».
Nous autres.
Faire avec, ça veut dire, à tout notre bénéfice, prendre ce que la nature nous donne.
Zoé Varier.
Chez Gilles Clément, le jardin est une aventure.
On est obligé, pour marcher dans toute cette brousse, de faire un passage. À ce moment-là, il faut arracher, il faut passer une machine ou quoi. Mais moins on le fait, mieux ça vaut, évidemment.
Une heure de liberté à regarder l'herbe pousser avec un jardinier engagé, Gilles Clément.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter.
Allez, comme premier, malgré le retard, on parle musique. Bonjour Sylvie Chapelle.
Bonjour Nicolas, on se retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Sylvie Chapelle, on parle musique. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Le vendredi jusqu'à 17h, on vous offre la musique et les artistes qu'on aime. On est aussi là pour les repérer, ces artistes, et vous les faire découvrir. C'est le cas aujourd'hui. Elle est française, mais vit à New York. Elle a 23 ans, mais déjà quelques années de pratique derrière elle. Son premier album est sorti chez Vasiva. Il s'intitule Where To, avec un point d'interrogation. Retenez bien son nom, on parle musique avec Kido. Bonjour Kido.
Bonjour.
Alors on va prévenir nos auditeurs tout de suite, vous avez un petit problème de voix, vous
oui.
avez beaucoup répété ces derniers jours.
C'est ça.
Je vous souhaite la bienvenue chez nous, vous arrivez des États-Unis, c'est là-bas que vous vivez, donc il faut quand même préciser que vous êtes guitariste et que les États-Unis sont quand même une destination assez idéale pour l'instrument. Est-ce que vous restez connecté à ce qui se passe en France et à la scène française ?
J'essaye, mais c'est vrai que de toute façon, mes influences sont principalement des États-Unis, même avant que je déménage là-bas, donc...
Anglo-saxonne,
mais je veux dire plus précisément des États-Unis, moins anglais, même si j'aime bien le rock anglais, je suis quand même plus portée sur le blues et le jazz, mais je m'intéresse au... Je vois qu'il y a beaucoup d'artistes en France qui commencent aussi à chanter, notamment en anglais, et à faire plus de folk et... J'aime beaucoup, par exemple, Cocoon ou Yodelis.
On va présenter votre personnalité musicale aux auditeurs tout au long de l'émission. Le mieux est de le faire en musique avec l'un des titres de votre album. Moi, j'ai choisi « What Kind of Day ».
Country stretching in green lights. I see the lady sitting next to me. I got my ticket for the Northern Light. I feel the fever catching at my knees. I see the red shoes of this man in black. I wonder where he works, he's got a funny nose. I hear some talking on the phone in my back. And what's that funky feeling fiddling with my toes? What kind of day you tell me?
What kind of day?
What kind of day is gonna be mine? What kind of day you tell me, please?
Ah,
what kind of day is mine?